Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vous raconte l'histoire d'une adoption à l'étranger, au Guatemala. L'histoire de Carmen Maria Vega, que vous connaissez peut-être puisqu'elle est chanteuse. Elle sera là tout à l'heure. Carmen Maria Vega a été adoptée tout bébé par un couple de Français. Elle est d'origine guatémaltèque et il y a 10 ans, à l'âge de 26 ans, elle s'est lancée à la recherche de sa mère biologique. Une incroyable aventure qu'elle raconte dans un livre qui paraît chez Flammarion, Le Chant du Bouc. Voici son histoire, je l'ai écrite avec Bettina Servant, la réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Nous voici en 1987, à l'école primaire Hector Berlioz, dans le 9e arrondissement de Lyon. Anaïs, viens ma perle. Écoute-moi bien, je veux te le redire. Bon, t'es pas sortie du ventre de maman, mais c'est tout comme, hein? Je t'aime pareil, hein? Tu comprends? Oui, j'ai compris, je sais, tu me le dis tout le temps. Je peux y aller maintenant, maman? Ça me donne l'occasion de vous la présenter. Maman. Une mère volubile. Elle fait un de ses boucans. Elle parle comme si elle avait peur de ne pas avoir le temps de tout dire. Papa, lui, c'est tout l'inverse. Autant elle fait du bruit, autant lui, c'est un silencieux. Un physique à la Francis Cabrel, un marrant mais qui réserve la fantaisie à ceux qui le méritent. Et puis il y a Jean Mathieu, leur enfant biologique. Il m'a fait des misères de grand frère. Normal. Après sa naissance, maman est devenue stérile. Ils voulaient une famille nombreuse. Alors ils ont décidé de m'adopter. Jusqu'à mes 26 ans, pour nous, mon adoption est une non-question. C'est une adoption réussie, pleine d'amour. Ils m'aiment. Pareil, ni plus ni moins, je ne me sens pas différente. Et on pratique l'humour noir. Et papa, tu te calmes, hein? Je te rappelle que tu m'as trouvé dans une poubelle. Si je t'avais trouvé dans une poubelle, j'aurais mieux fait de fermer le couvercle, je te le dis, moi. Si on avait su à l'époque qu'on n'était pas si loin de la vérité. Mes parents ne sont pas parfaits. Mais quels parents sont parfaits? Aujourd'hui, avec mes yeux apaisés de trentenaire, je les observe avec amour. C'est ça, devenir adulte, non? Je me persuade qu'ils sont immortels. Et ça m'aide à ne pas me préoccuper du futur. Quand ils m'ont adopté, on a dit à mes parents que ma mère biologique était une activiste du Guatemala, qu'elle avait dû m'abandonner pour me sauver la vie. Une mère héroïne, quoi. N'empêche qu'un jour, à dos peint qu'en colère, je dis « De toute façon, ma mère, je la déteste. Elle m'a abandonné parce qu'elle m'aimait pas. » « Oh non !» Non, je peux pas te laisser dire ça, Anaïs, enfin, ta mère t'a abandonné parce qu'elle t'aimait. Hein, c'était un acte d'amour. Ça m'a cloué le bec. Et ils en ont parlé, le soir, au lit. Ça, je l'ai appris plus tard. Et le lendemain, papa vient frapper à la porte de ma chambre.
Ah, mon petit chaton, viens voir.
Et là, ils m'emmènent dans leur chambre.
Voilà. Je voulais te donner quelque chose. Tiens.
Et il me tend une chemise orange sur laquelle est inscrit au feutre rouge « Dossier adoption Anaïs ».
Avec maman, on trouvait important que tu puisses le lire. Ça va? Là-dedans, tu vas trouver toutes nos démarches et aussi des choses sur ton identité. Ça va? Ok? Si t'as des questions, t'hésites pas, ma chérie.
Et donc ce jour-là, à 15 ans, je découvre que je suis né Carmen Maria Vega.
Et pourquoi ils n'ont pas gardé mon prénom?
Carmen Maria. Il est beau? Je suis né le 11 juillet 1984 à Colonia El Limón, à Guatemala City, la capitale du Guatemala. Mais ça, je le savais, c'est sur mes papiers d'identité. À partir de ce moment-là,
je décide de récupérer mon nom. Et le seul moyen que je trouve, c'est sous l'intitulé pseudonyme, juste après Anaïs. C'est normal, c'est mon nom. Dans ce dossier, il y a aussi le nom de ma mère. Et à partir de là, quelque chose se met à bouillonner dans mes tripes. Et si elle était encore vivante? Et qui est mon géniteur? On n'en parle nulle part de celui-là. Il est mort? Et si j'étais né d'un viol? Et si elle ne voulait pas me rencontrer? Et si... Mais pars! Va rencontrer ton pays! Trouve-la! D'accord? Mais par où commencer? T'es marrante? Alors je me lance. Accroche ton cœur. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais aujourd'hui je suis comédienne et chanteuse.
Départ du navire, sous les astres dorés, je suis née pour te connaître, je vivrai pour te trouver.
Un jour, à l'été 2010, j'ai 26 ans, et après un concert, un garçon qui s'appelle Vincent tente de venir me voir dans ma loge. Mais le vigile ne le laisse pas passer, alors il m'envoie un mail. Bonjour Carmen. Je suis avocat au barreau de Madrid et je suis porte-parole de Rigoberta Menchú, une indigène du Guatemala qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1992. Mon but est de sensibiliser tous les Guatémaltèques que je rencontre au combat de Rigoberta et à la cause des indigènes. Êtes-vous retournée dans votre pays, mademoiselle? Et bravo pour votre concert. Je lui réponds. Je serai enchanté de rencontrer Rigoberta, mais j'ai une question à vous poser. J'ai été adopté et je n'ai que le nom de ma mère. Accepteriez-vous de m'aider à la retrouver? Oui, je peux vous aider. Je suis au Guatemala en janvier pendant 3 semaines. Je pars dans 1 mois. Et je l'annonce à maman et papa un dimanche de poulet frites salade. C'est pas un peu précipité, non? Et puis Vincent, tu l'as jamais vu? T'es sûr qu'il est fiable? Ils doivent aussi se poser tout un tas de questions sur le désamour que je pourrais ressentir si je la retrouve. C'est couillon, hein? Mais rien de plus normal, après tout. Et me voilà à Guatemala Ciudad, dans une chaleur humide, écrasante. Vincent est venu me chercher. Son physique me rassure. Il est avec un homme armé. C'est le garde du corps de Rigoberta. Elle nous le prête pour la journée. Le lendemain, on a rendez-vous à la RENAP, l'équivalent de la mairie. Je veux retrouver la trace officielle de ma mère. Quand on arrive, il y a une queue gigantesque. Vincent, sur sa carte des Nations Unies, il s'en sert de coupe-fil. Et on se dirige vers le premier bureau, une minette de 25 ans, derrière un ordinateur. Hola. Buenas dias. La demoiselle que vous voyez ici, là, cherche sa maman. Elle a été adoptée au Guatemala. Et donc on a besoin de son acte de naissance pour tenter de trouver son adresse. Vous pouvez la chercher? Elle rentre le nom de ma mère. Elle me regarde. Elle regarde l'ordinateur. Elle me regarde à nouveau. Hein, les palestinas, Elia. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tu lui ressembles. Malheureusement, elle peut pas nous donner son acte de naissance. Dos días. Elle dit qu'elle nous le donnera dans 2 jours et qu'il y a 4 photos dans le dossier. La dernière quand ta mère avait 25 ans. C'est l'âge auquel elle t'a eu, non? Elle est sous direction. Si. Elle va nous donner son adresse. Son adresse. Elle dit que c'est dans la zone 6. Bon, c'est un quartier calme. On essaie d'y aller tout de suite. On se retrouve devant une petite maison au mur gris. C'est là donc qu'elle habitait dans les années 80, quand je suis né. Moi, je reste dans la voiture.
Buenas noches.
Bon, ils ne la connaissent pas, mais ils m'ont dit que pas loin, il y a un un genre de couvent qui est aidé, d'après ce qu'ils disent, les femmes célibataires. On va y faire un tour ? Mais le couvent est fermé. Ce matin, Vincent est content. On a rendez-vous avec l'avocate qui a signé les papiers de mon adoption. Elle n'est plus toute jeune, mais elle est toujours en exercice. Dans sa salle d'attente, j'ai la tremblote. Je n'ai plus d'ongles à ranger. Elle arrive toute petite tortue aux cheveux gris.
Buenos días. Por favor.
Bonjour, maître. Voilà, nous avons des documents. Peut-être que vous savez quelque chose?
Vous savez, j'ai fait tellement d'adoptions à mon âge. Je ne peux pas me souvenir de tous les cas.
Vincent est d'un calme admirable. Mais je sens qu'il sent qu'elle nous ment, la garce. Elle sort un vieux classeur où se trouve l'acte d'abandon de ma mère, que j'ai déjà dans mon dossier. Oui, ce sont des papiers que nous avons également. Dites-moi, maître, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous savez des trafics d'enfants pendant le conflit armé? Je sais que pas mal d'avocats ont aidé des passeurs dans leur besogne.
Jamais! Vous entendez, jamais! Hein? J'ai aidé des centaines de femmes. Et tout est légal.
Je rêve? Ou Vincent vient de parler de trafic d'enfants? On n'a jamais parlé de ça.
Vous n'avez pas une adresse à nous communiquer avant qu'on se quitte? Aucune information sur son lieu de résidence actuel, par exemple?
Non. Il n'y en a rien concernant cette personne. Voilà. Merci beaucoup.
Et nous voilà dans la voiture.
Elle nous a menti, c'est évident. T'as vu comme elle s'est enflammée quand je lui ai demandé pour les trafics? Je suis d'accord, mais... Tu as parlé de trafic d'enfants, ça? Ça fait partie des options?
Toutes les options sont possibles hein, pendant le conflit armé. On est obligé d'étudier toutes les possibilités. À la RENAP, la mairie, il nous avait promis de nous donner son acte de naissance dans 2 jours. C'est demain.
Alors?
C'est bon! J'ai récupéré les papiers. Elle te ressemble, hein? Enfin, tu lui ressembles. Tiens, ouvre. Prends ton temps. Tu veux que je te foute la paix 5 minutes?
Non. Non, reste.
Je prends l'enveloppe marron. J'en sors une feuille A4 où figurent 4 photos. C'est ma mère, de ses 17 à ses 25 ans. C'est mon portrait craché à 15 ans. Jusque-là, je m'étais retenu de pleurer, mais... Cette fois, c'est plus fort que moi.
Merci, Vincent.
De rien, ma belle. On est allé à Colonial Limon, dans la zone 18, là où je suis né, là où ma mère a vécu. C'est l'un des quartiers les plus dangereux de Guatemala Ciudad. Et on a vu des Vegas. Mais aucune n'était la bonne. Il nous reste 3 jours pour la retrouver. D'après son acte de naissance, ma mère est née à Esquipulas, à la frontière avec le Honduras et le Salvador. Nous y partons à l'aube. On roule pendant 4h30 et on arrive à l'hôtel.
Dites-moi, monsieur, est-ce que vous connaissez des Vegas par ici à Esquipulas?
Vega, seguro que si. Le maire vient d'une famille où les gens portent beaucoup le nom de Vega.
Nous allons donc sonner chez le maire. Il est d'abord méfiant et puis...
Tenez, voici le nom et l'adresse de mon frère. C'est un passionné de généalogie. Peut-être qu'il connaîtra votre madre.
Nous rendons tout de suite chez le frangin, qui est ravi de notre visite. Il sort des archives, des photos, l'arbre généalogique, et il finit par nous traîner chez un autre de ses frères, qui ne connaît pas ma mère, ni ma grand-mère, dont le nom figure aussi, sur l'acte de naissance. Le lendemain, nous allons à la Reina d'Esquipulas, la mairie. On entre, c'est tellement vétuste qu'on a beaucoup de mal à imaginer que c'est une mairie. Au fond de la salle, une femme est en train de faire la vaisselle. Elle se sèche les mains, elle se dirige vers nous.
Personne siguiente.
Personne suivante. Elle est gonflée, on éclate de rire. Elle va s'asseoir à son bureau. Vincent lui explique. Elle fouille dans ses fichiers.
Y a votre mère ici? Pero, elle ne peut pas vous donner les papiers avant 10 jours, hein? Et ma grand-mère? La mère de ma mère, regardez. Elle s'appelle Anna Vega. Anna Vega, si c'est? Non? Faites-moi voir les papiers, s'il vous plaît. Attention, hein? C'est pas Anna, hein? C'est pas bien écrit. C'est Dora. Dora Vega. Dora Vega. Il y a une adresse. À Guate Ciudad. Je peux vous la donner?
Et sur le chemin du retour, on croise le frère du maire, le passionné de généalogie. Et on lui dit, c'est pas Anna Vega, c'est Dora Vega.
Dora? Dorita? La bouchère? Elle avait une boucherie dans les années 60, je me souviens très bien. Mais elle est morte. Mais son mari habite au Honduras. Il s'appelle Ricardo Portillo. Il vous amène, si vous voulez.
On a peut-être retrouvé mon grand-père. Mon cœur bat à 100 000. Une heure et demie de route à retenir mon souffle. Et on arrive devant une échoppe. Et une petite mamie se trouve sous l'auvent. Vincent lui explique. Elle me fixe à distance. Vincent ne finira pas sa phrase.
Aïe, aïe, aïe! Como parece tan Alba?
Alba? Elle a dit Alba? Elle a dit le prénom de ma mère? C'est ça, hein, Vincent? Cette petite mamie, c'est la deuxième femme de Ricardo, mon grand-père. Elle dit qu'il est parti chercher du bois au Salvador. Elle l'appelle.
Ricardo! La fille d'Alba est là. Si, si, rentre vite.
On entend un bruit de frein et apparaît un tout petit bonhomme de 80 ans. Il me regarde, il me sourit. Vincent explique, il me présente. Il s'approche. Et nous nous faisons la bise, maladroitement. Et puis, il me prend la main. Il me fait signe de m'asseoir à côté de lui sur le canapé.
Il avait tout raconté. Tout ce qu'il y a, c'est. Je crois que tu as un grand frère, une grande sœur, je ne sais plus. Et toi, il était beau quand tu étais encore un bébé. Ta maman, elle est fâchée contre moi. Mais il y a des nouvelles par courrier de temps en temps. Elle m'a envoyé des photos d'elle et de son mari. Elle a refait sa vie en Belgique, il y a 25 ans.
Stop! En Belgique? À côté de la France? C'est-à-dire que je viens de me taper 8000 kilomètres pour la retrouver et elle est en Belgique.
Il y avait tout à raconter depuis le début. Moi, je suis ton grand-père et je viens de Honduras. Et ta grand-mère vient du Salvador. Et tous les deux, on avait une petite boucherie à Esquipulas. Et puis quand les escadrons de la mort sont arrivés, ils ont voulu réquisitionner mon commerce. Et moi, avec tes mains, j'ai refusé. Ils m'ont passé à tabac. Et j'ai fait semblant d'être mort. Et des voisins m'ont aidé à fuir jusqu'à la frontière du Honduras. Et à cette époque, nous avions déjà 5 enfants, dont ta maman, Alma.
Il m'explique que Dora, ma grand-mère, est restée, et que pendant un an, ils n'ont pas pu se voir, et que quand il l'a revue, elle était enceinte, à l'évidence pas de lui. Il l'a mal pris. Et elle est morte juste après, d'un cancer du ventre, dit-il. Ou plutôt, à mon avis, hein, des suites d'un avortement. Elle a dit que les enfants se sont retrouvés orphelins et que lui ne pouvait pas aller les chercher. Trois de ses filles sont donc parties à l'adoption aux États-Unis.
Et ta mère, Alba, elle est restée chez une institutrice de Esquipulas. Et crois qu'elle m'en a toujours voulu de les avoir abandonnés. Il la comprend, hein?
Mon avion décolle demain midi. Je pourrais le repousser, hein? Mais je dois être en studio pour enregistrer un disque dans 24 heures. Alors je pars avec un numéro de téléphone. Pas celui de ma mère, il ne l'a pas. Mais le numéro de mon demi-frère, qui a le numéro de sa sœur aux États-Unis, qui, elle, est en contact avec ma mère.
Alba?
Si, oui.
Bonjour, Alba. C'est ta fille, Carmen.
Ah, mais tu ne t'appelles pas Carmen, hein? Tu t'appelles Angie.
Mais pourquoi je m'appelle Carmen sur mes papiers?
Ça, je sais pas. C'est bizarre, non?
Est-ce que je suis bien né à Colonia El Limón dans la zone 18?
18? 18? Non. Tu es né dans la zone 6.
Bon. Et je suis bien né le 11 juillet ou c'est encore faux?
Ah non, non. Ha nacido el 11 de junio, le 11 juin.
Bon. T'es où? Pourquoi t'es en Belgique?
Je suis à Charleroi. Tu viens me voir? D'accord. Je t'expliquerai.
D'accord. Je t'embrasse.
Si. Si te quiero, mi hija.
De retour en France, on a donc pris la route de Charleroi avec Igor, mon amoureux.
À 100 mètres, vous êtes arrivé à destination.
J'ai chaud, j'ai froid, je ne veux pas descendre. Est-on jamais prêt à rencontrer sa mère? On l'a attendu toute notre vie et on est paralysé. C'est son mari qui ouvre la porte. Et au fond de la petite maison de mineur, surgit en courant un être aussi petit qu'un enfant de 13 ans. Et elle me serre de toutes ses forces.
Oh, mi hija, te quiero, perdóname, pardonne-moi.
1,42 m de tendresse à ne plus savoir qu'en faire. Et elle m'embrasse sur la bouche, sur les joues, sur les tempes. Je suis submergé d'amour. Cette femme retrouve un bébé de 9 mois qu'elle a vu pour la dernière fois il y a 25 ans. Regarde-les, ces deux animaux qui se reniflent. Je ne sais pas ce que je ressens. Je suis ému, hein, mais c'est trop pour moi. Elle m'a tout raconté. Mon père s'appelait Carlos Enrique Bolaños Ponce. Un jour, il est parti pour les États-Unis, San Francisco. Il a envoyé de l'argent pendant 3 mois, et puis plus rien. Et Alba s'est retrouvée toute seule, sans personne sur qui compter. Je devais avoir 6 mois, et mon frère Randy, 3 ans et demi. On n'a pas le même père tous les deux. C'était la guerre. On lui a conseillé d'aller voir des sœurs. Des sœurs qui viennent en aide aux jeunes femmes en détresse, dont une certaine Ofelia de Gamas, qui se trouvait être la belle-sœur du dictateur guatémaltèque de l'époque. C'est elle qui a présenté Alba, ma mère, à Madame Houdard de l'association belge basée à Tournai, Acer Punte. Alba lui a expliqué qu'elle ne voulait pas abandonner ses enfants, mais que s'il existait un moyen de leur offrir une meilleure vie, alors elle était prête à nous accompagner en Belgique. À l'époque, il n'était question que de familles d'accueil temporaires. Mais Madame Houdard lui a fait signer un mandat donnant l'autorité parentale et cédant ses droits parentaux à une certaine Michèle Bouc. Mais il fallait aussi que mon père signe. Et c'est là qu'ils ont changé mon identité et écrit « Né de père inconnu ». C'est l'avocate, la tortue, vous vous souvenez, qui a décidé de m'appeler Carmen Maria Vega au lieu de Angie Maria del Rosario Vega. Et de me faire naître dans la zone 18 au lieu de la zone 6, le 11 juillet au lieu du 11 juin. Et voilà. Voilà comment je suis rentré en Europe avec une identité falsifiée. À l'aéroport de Bruxelles, Madame Houdard m'a arraché au bras d'Alba et ma mère m'a vu disparaître derrière une vitre sans teint et passer de bras en bras jusqu'à ceux de mes parents adoptifs. Eux, mes parents, ils avaient leur agrément, toute leur démarche était légale. Ils avaient essayé d'adopter en Roumanie, en Colombie. Ils ont failli laisser tomber. S'ils avaient su, à ce moment-là, ce qu'on venait de manigancer dans leur dos. Et moi, pourquoi crois-tu qu'en 1985, à mon arrivée en France, dans les bras de Martine et Manu, mes parents, j'ai pleuré pendant 8 heures non-stop. La désormais petite Anaïs pleurait son déracinement. Elle pleurait sa mère. Elle pleurait son identité.
Et mon voyage est terminé. Je trouverai ma liberté. Et bientôt, j'arriverai. Je trouverai. Je suis la Niña, la Pinta, la Santa.
Très jolie chanson, Carmen Maria Vega, extraite de votre dernier album, inspirée bien entendu de cette histoire personnelle. Vous dites assez peu de choses dans le livre de ce qu'a été votre découverte que votre adoption avait été un vol d'enfant. Dans quel état est-ce que ça vous a laissé ?
Pendant quelques semaines, j'ai fixé le mur pendant très longtemps, non-stop. Pour être bien sûr de ce qui était en train de se passer, parce qu'effectivement c'est inentendable, on ne peut pas imaginer une seconde que ça puisse être la vérité. Je m'étais fait 1000 scénarios, mais pas celui-ci, alors que finalement il est assez banal dans ce pays qu'est le Guatemala.
Et peut-être pas que d'ailleurs,
et pas que,
dans l'adoption internationale.
Dans l'adoption internationale, dans des pays qui sont souvent sujets aux guerres, et dans n'importe quelle guerre il y a des trafics d'humains.
Et vos parents, parce que vous le leur dites. Ouais. Juste après.
Ouais. Bah pour eux, c'est la douche froide. C'est la douche froide, puisqu'ils ont eu affaire, par le passé, à des associations qui demandaient de l'argent sans expliquer pourquoi. Ils n'ont jamais voulu donner de l'argent sans savoir à quoi allaient servir les frais.
Mais qui gagnait de l'argent dans cette affaire, d'ailleurs ? Quel était ce système ?
Pour l'instant, c'est des choses qui restent encore à prouver, puisqu'il y a énormément de zones d'ombre. Mais par exemple, mes parents ont payé pendant plus de 9 mois une nourrice qui m'aurait gardée pendant les 9 mois où j'aurais été abandonnée par cette mère activiste. Mais j'ai jamais été avec cette nourrice. Donc ces frais-là ont servi forcément à des pots de vin. À payer qui ? Des avocats, un bakchiche, des gens dans des aéroports, des douaniers.
Vous avez été 8000 enfants.
Plus de 8000 enfants sur 30 000 adoptions. Ouais.
Placés par cette association, à Serpente. Les deux femmes, là, Madame Houdard et Madame Bouc, elles existent toujours ?
Je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, que Madame Houdard est décédée. Et Madame Bouc est toujours en vie, oui.
Pourquoi est-ce qu'elles faisaient ça, elles ? Quelle était leur idée ? Vous avez percé ce mystère ?
J'en ai aucune idée. Non, toujours pas. Et comme Il y a un procès qu'on espère verra le jour d'ici, je sais pas.
Vous avez porté plainte.
On a porté plainte, on est plusieurs enfants à vouloir connaître la vérité et les raisons, effectivement. Moi, personnellement, je n'ai pas de désir de vengeance. Je voudrais juste que les faits soient reconnus. Après, les vraies raisons, il faut le demander aux personnes concernées.
Alors, il y a une question qui évidemment reste en suspens. Je suis sûr que je ne suis pas le premier à vous la poser. Pourquoi est-ce que vous avez donc choisi ce pseudonyme de Carmen Maria Vega, puisque ça n'est pas en vérité votre vrai nom, et que votre vrai nom, c'est Angie Maria del Rosario Vega?
Parce que j'ai commencé ma carrière d'artiste à 21 ans et que c'était devenu pour moi l'opportunité inespérée de récupérer ce nom, Carmen Maria, que je croyais être mon vrai prénom, quoi, mes deux vrais prénoms. Et quand à 26 ans, au bout de déjà plus de 6 ans, j'ai tellement embêté toute ma famille, mes amis,
pour
qu'on m'appelle Carmen, et que je m'étais tellement fait à ce prénom-là, je l'ai choisi. Alors effectivement, il pourrait me mettre très en colère maintenant, ce prénom, ouais, puisqu'il est le signe de la...
C'est l'avocate qui vous l'a donné, ça. Il n'y a pas d'attache affective.
Voilà. Non, pas vraiment, mais... Anaïs, c'est le nom de baptême que m'ont donné mes parents adoptifs. Angie, c'est le nom de baptême que m'a donné ma mère biologique. Carmen, bon, bah, je me suis battue pour, je m'y suis faite, je trouve qu'il me va bien, et ce sera peut-être le seul truc positif.
Tout est résumé d'ailleurs dans ce dilemme.
Bien sûr.
À la fin de l'histoire, il y a plein de gens qui vous restent à retrouver.
Oui.
Votre père.
Oui.
Identifié, localisé.
Alors, identifié, oui. Localisé pas encore, dernière nouvelle, donc quand, en 84, enfin 85, il part à San Francisco, est-ce qu'il y est encore, je ne sais pas.
Vous ne le cherchez pas ?
Je le cherche pas, non, je vous avoue que j'ai une petite flemme, puisque je me rends compte évidemment de la montagne encore qu'il faut gravir pour trouver ces réponses-là. Il faut de toute façon que je reparte au Guatemala pour pouvoir trouver ces réponses.
Vous n'y êtes
pas
retourné ?
Non.
Votre frère, Rwandi,
oui,
il est probablement en Europe.
Il est en Belgique,
ouais.
Côté Wallon.
Vous l'avez vu?
Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il s'appelle Alexander maintenant. Mm. On se ressemble, il n'y a pas de souci.
Il se passe un truc ou pas?
On est dans un respect mutuel puisque nos adoptions sont différentes. Ses parents ont rencontré ma mère biologique, donc il y a des zones d'ombre que lui n'a pas. Il n'a pas de désir de porter plainte. Il n'a pas envie particulièrement de porter ça devant la justice. Et c'est pas le seul des enfants d'ailleurs dans ces cas-là. Il faut respecter. On n'est pas tous égaux avec nos histoires personnelles, mais en tout cas, on a un respect mutuel de nos histoires. Après, on se voit.
Et Alba alors, est-ce que vous la revoyez?
Alba, la dernière fois que je l'ai vue, ça fait un petit moment, c'était il y a peut-être 5 ans, je pense. On s'envoie des messages de joyeux Noël et de bon anniversaire. Et je pense à toi.
Il n'y a pas plus que ça.
Non.
Bon, il fallait le faire.
Ah oui, et je ne regrette pas de l'avoir fait. C'était une quête de vérité indispensable pour comprendre et puis se construire. Je crois que tous les enfants adoptés ont besoin, à un moment donné, même si la vérité n'est pas toujours très jolie, de savoir quelle est cette vérité pour pouvoir avancer.
Vous refusez dans le livre de l'appeler maman, parce que ça je ne l'ai pas raconté, mais dès le premier contact, elle a une sorte d'intuition, ou alors peut-être ce désir de se faire pardonner, ou j'en sais rien, de ce qu'elle a dans sa tête, mais elle vous dit de l'appeler maman, et vous dites, tiens, je ne peux pas.
Ouais, je crois qu'elle, pour elle, c'est comme je le dis, elle retrouve un bébé, quoi, donc elle pense qu'on est réunis pour toujours. Mais moi, je ne m'attendais évidemment pas à retrouver une mère si proche et si aimante et dans un besoin affectif que je n'étais pas capable de lui donner. Puisque j'ai eu une famille adoptive parfaite dans l'absolu. Et je veux dire, eux, ils ont été victimes comme moi, collatérales de ce trafic. Et il a fallu composer, quoi, rassurer à la fois les parents adoptifs, donner l'amour que je pouvais donner à Alba pour la soulager, mais après c'est vrai que moi j'ai aussi décidé à un moment donné de penser à moi et de me dire bon, je peux pas aimer tout le monde.
Est-ce que vous êtes certaine d'ailleurs que l'histoire qu'elle vous a racontée est la vraie histoire?
Ah bah son histoire à elle, oui. Oui, ça va.
Mais l'histoire de la manière par laquelle vous êtes arrivé en France, le fait que votre père se barre, qu'il n'envoie plus d'argent.
Oui, ça c'est complètement possible, parce qu'au Guatemala, si vous voulez, le père est souvent peu présent, et dans les années 80, c'est encore pire, donc il a pu totalement partir et jamais donner de nouvelles. C'est assez basique. Malheureusement, les mères sont souvent seules et célibataires au Guatemala, et c'est rarissime. Donc sa version, je la crois à 100%, et de toute façon, on a eu beaucoup d'autres enfants qui se sont rendus compte des erreurs juridiques qu'il y a dans leurs dossiers, des dossiers vides parfois, des enfants qui sont déclarés morts à l'hôpital aux parents biologiques et qui sont donc volés à l'hôpital. Ça c'est aussi très fréquent par exemple.
Est-ce que ça a changé quelque chose avec vos parents adoptifs ?
Au retour, oui, parce que la vérité était tellement inentendable qu'on a eu un petit moment de mise à jour. Ouais, pendant 3 mois, on se comprenait plus. Moi, j'avais très envie qu'il rencontre ma mère biologique. Il se sentait pas du tout. Moi, je prenais ça comme une espèce de refus et un déni de la vérité. Donc, je voulais qu'on admette que ce trafic d'enfants avait eu lieu et que il n'arrivait pas qu'à moi. Et j'avais un peu le sentiment à ce moment-là que j'avais ramené un cancer à la maison, quoi. Il fallait que je me le garde. Oui, il y a eu un gros froid.
Mais ils l'ont vu, finalement.
Non, finalement non.
Finalement non.
Et c'est pas grave. Si vous voulez, à un moment donné, déjà, moi, j'ai fait certains deuils. Et le plus important, c'était qu'ils admettent la vérité. Donc, ça a mis du temps. Hein. Il a bien fallu 2-3 ans, quoi, avant que ça puisse revenir sur le tapis de manière sereine. Moi aussi, que je taise ma colère, en tout cas, que je la transforme de manière positive en un combat. Que je mène aujourd'hui toujours pour la vérité.
On sent dans votre livre et votre récit une volonté de sagesse. Et notamment quand vous parlez de vos parents adoptifs, on sent qu'il y a eu des histoires et que ça n'a pas été tout simple. Mais vous dites en gros que à l'âge que vous avez maintenant, tout est oublié, tout est pardonné.
Et oublié que... non, mais en tout cas pardonné, parce que je ne sais pas comment j'aurais réagi moi à leur place aussi si j'essaye de mettre 2 minutes à leur place.
Ouais.
Évidemment que cette vérité-là, elle est affreuse. On a envie de protéger ses enfants, on n'a pas envie qu'ils reviennent en leur disant bah, on vous a pris pour des cons, vous avez acheté un gamin. C'est horrible, enfin, je veux dire, sur le papier. Et j'ai pas envie qu'on soit en guerre, et on a réussi à trouver un mode de communication et à se pardonner les uns les autres aussi, et puis à accepter. C'était ça le plus important.
On sent qu'il y a de l'amour. Et
oh,
que
bah
donc,
oui,
ça permet d'effacer tout ça.
Bah, ça aide pas mal. Hein. Ouais, ouais. Si en plus on s'aimait pas, là, je pense que ça aurait été réglé autrement.
Sans rester scotché au cas particulier de vos parents, mais peut-être en les incluant dans la réflexion, est-ce qu'au fond, les parents qui ont recours à l'adoption internationale ne sont pas des parents qui ne veulent pas savoir?
Je sais pas. Je peux. Oui et non.
Parce que moi, j'en ai raconté d'autres, des histoires d'adoption ici.
Ouais.
Et franchement.
Il y en a 1000.
Il y en a 1000. Et l'adoption internationale est un tapis qu'il ne faut pas soulever.
Elle est très trouble, et c'est sûr. Et en tout cas, il y a des associations qui sont très fortes pour faire en sorte de faire croire des choses et puis justement de balayer la poussière sous le tapis et en montant des dossiers pas possibles. Donc, moi, mes parents, non. Et en l'occurrence, eux, ils voulaient vraiment tout savoir, tout connaître et avoir le maximum d'informations pour pouvoir me donner
truc.
Une clé. Ah, bah
ouais.
Parce qu'ils supportaient pas l'idée.
Donc, ils se sont fait embrouiller.
Mais complètement. Donc, c'est pour ça que ça a été si dur de se comprendre derrière, parce qu'ils ont, entre guillemets, de leur point de vue, pas su me protéger. C'est le pire, je crois, que pour un parent, quoi.
Vous êtes pour l'adoption à l'étranger ?
Dans l'absolu, oui.
Parce
que je peux pas. Enfin, je suis évidemment pour, parce que il y a un nombre d'enfants qui sont vraiment orphelins, qui ont vraiment subi des pertes de parents à cause des guerres et qui ne sont pas volés. Donc, je reste évidemment pour, mais je suis évidemment pour la vigilance et des associations et des parents, quoi.
Et d'ailleurs, on peut constater que ça. Un peu disparu, l'adoption internationale.
Bah, c'est évidemment un petit peu durci.
Votre génération,
hein.
C'était, il y a eu un énorme boom.
C'est tombé.
C'est tombé de tous les côtés. Aujourd'hui, les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, ont plutôt recours ou à la GPA ou à la
bien
PMA,
sûr.
Ils font des enfants eux-mêmes. Comme si, finalement, ça réglait cette question-là, parce que des histoires comme la vôtre, on en a connu d'autres.
Bah oui, bien sûr, mais la GPA pose aussi toutes ces questions malgré tout, parce que les enfants veulent savoir à un moment donné qui est leur géniteur, même si les parents sont géniaux, même si les parents sont aimants, et c'est très difficile ce sujet. Il est très compliqué, mais je resterai toujours pour l'adoption, que ce soit par des couples hétéros, par des couples homo, ou par des couples lesbiens. Je crois que c'est toujours mieux d'avoir des parents, de toute façon, que de grandir dans un orphelinat ou dans des foyers.
Muchas gracias. Carmen Maria Vega, votre livre s'appelle Le Chant du Bouc. Il est édité par Flammarion.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.